Max Ernst, como todos ustedes saben, es una de las figuras claves de la vanguardia artística del siglo XX, una de las personalidades culturales europeas cuya obra figura entre los grandes viajes de exploración espiritual llevados a cabo en nuestro siglo, según palabras del comisario de la exposición, doctor Werner Spies, autor del estudio sobre Max Ernst, que está reproducido en el catálogo de la exposición. El esfuerzo realizado por el equipo de trabajo de la Fundación Juan Marc se ve hoy coronado por esta exposición de obras de uno de los nombres más destacados del dadaísmo y del surrealismo. Pero ese esfuerzo no hubiera podido llegar a buen término sin la ayuda y la colaboración de diversos museos y entidades internacionales. Sin hacer ahora una relación completa de todas ellas, sí debo destacar la valiosa colaboración que nos han prestado el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Centro Pompidou de París, el Museo Ludwig de Colonia, la Fundación Guggenheim de Venecia, el Instituto Alemán de Madrid y la Asociación Francesa de Acción Artística. A todas estas instituciones y a los coleccionistas individuales, señaladamente al galerista suizo Ernst Beyeler, que nos han cedido obras de sus colecciones para esta exposición, quiero hacerles llegar el reconocimiento de la Fundación Juan Marc. La exposición comprende un total de 125 obras correspondientes a más de 60 años de la vida artística de Max Ernst, entre óleos, collage, gouache, acuarelas y obra gráfica. Figura también en ella una bella escultura del año 1961 y una colección de libros de o sobre Max Ernst. La exposición estará abierta en Madrid durante 2 meses, hasta el 27 de abril, y después se trasladará a Barcelona para ser exhibida en la Fundación Miró, añadiéndose así un nuevo eslabón a la cadena de colaboraciones que la Fundación Juan Marc mantiene con la prestigiosa Fundación Catalana. No puedo dejar de mencionar en estas palabras de presentación el excelente trabajo que han realizado una vez más Gustavo Torner y Jordi Teixidor en el montaje y en el diseño del catálogo, respectivamente. Felicia Casas y Antonio Zubiaurre han traducido al español los textos que figuran en el catálogo, cuyo principal autor es, como antes indiqué, Werner Spies, que además del comisariado de la exposición, va a tener a su cargo la conferencia inaugural de la misma. Werner Spies nació en 1937 en Tubinga y realizó estudios de historia del arte, filosofía y literatura francesa en su ciudad natal, en Viena y en París, donde reside habitualmente. Es doctor en letras y ha sido catedrático de historia del arte en Düsseldorf. Él fue el comisario de la exposición Max Ernst en el Gran Palais de París en 1975 y ha sido comisario también de otras exposiciones de Ernst y de Picasso en Berlín, en Düsseldorf, en Múnich, en Frankfurt, en Bruselas, en Colonia, en Venecia y en Tokio. Son conocidos sus diversos libros sobre Max Ernst y Picasso, así como sus estudios y monografías sobre Vasarely, Albers, Cristo, Linder, etcétera, etcétera. Para nosotros ha constituido un placer contar con la colaboración personal del doctor Spies en la organización de esta exposición que hoy inauguramos. Y agradeciéndole su presencia en esta tribuna, voy a dar por terminadas mis palabras de presentación, no sin antes subrayar de modo muy especial la presencia entre nosotros de la pintora Dorotea Tanin, viuda de Max Ernst, que ha querido acompañarnos en este señalado día, trasladándose desde Nueva York para participar en Madrid en este acontecimiento cultural. Muchas gracias a todos por su presencia.
Mesdames et Messieurs, chère Dorothea, dès ses débuts, Max Ernst s'est défendu d'être un artiste au sens conventionnel ou au sens avant-gardiste du terme. Ses premières œuvres tentent déjà de refuser les influences détectables, même celles du cubisme, du futurisme ou de l'expressionnisme qui prédominaient en Allemagne à cette époque. C'est dans ce refus que s'enracine la spécificité de son style, et c'est ce style, ces débauches diversifiées d'un univers sceptique et visionnaire qui l'empêcha longtemps de devenir vraiment populaire. Car Max Ernst n'a cessé de se remettre en question, rejetant tous ceux qui auraient permis de le reconnaître et de le comprendre aisément. De même, lui manque-t-il tous ceux qui pourraient contribuer à une harmonie décorative et à un accès facile. Son œuvre fascinante, il attire, mais l'inquiète celui qui la contemple. Max Ernst a d'ailleurs recherché délibérément ce double effet qui correspondait bien à sa nature. Il disait lui-même, la peinture fonctionne à deux niveaux différents et pourtant complémentaires. Elle produit de l'agressivité et de la ferveur. Et encore, un peintre peut savoir ce qu'il ne veut pas, mais malheur à lui s'il veut savoir ce qu'il veut. Un peintre est perdu lorsqu'il se trouve. Max Ernst estime que son seul mérite est d'avoir réussi à ne pas se trouver. Il ne faut pas oublier cela, car les études qui lui sont consacrées parlent souvent de la diversité de son œuvre, du caractère capricieux de sa démarche, de ses changements de style. C'est ce point de vue qu'il convient de reconsidérer, car il repose sur une impression superficielle. En dépit de l'extrême diversité de cette œuvre, en dépit des sauts perceptibles sur le plan de la technique et du contenu, on peut déceler des choix de principe que Max Ernst n'a jamais révisés. Parmi ces choix, le refus de toute peinture ou de tout dessin direct. Max Ernst, au commencement d'une œuvre, part toujours d'un matériau préexistant qui l'inspire, qu'il développe dans la méditation, qu'il transforme. Ce qui est décisif, c'est la distance qu'il établit entre les différents éléments du tableau. On pourrait parler d'une esthétique de la distance. Il n'est pas de tableau de lui que ne joue avec la présence d'au moins deux éléments incompatibles dans la réalité. Nous ne connaissons guère de biographie d'artiste où, dès l'enfance, tout se soit à ce point ligué contre l'orientation artistique. La vocation d'artiste Max Ernst est l'histoire d'un détour compliqué. Il a toujours besoin de quelque chose qui le délivre de l'appréhension que lui inspire la rencontre de la toile nue de la feuille vierge. Il disait lui-même que la vue d'une feuille blanche lui donnait une sorte de complexe de virginité. Dans ses écrits, comme dans ses entretiens, Max Ernst relève constamment les contradictions que cache le principe d'identité d'un être ou d'un objet. Il voit derrière chaque phénomène une multiplicité de sens, un monde ouvert, un monde dans lequel rien n'est jamais définitif ni achevé. C'est dans cette instabilité que se révèle la poésie de ses tableaux, collages, frottages et poèmes. Tout se situe sur un terrain incertain, mouvant, tout échappe à un jugement autoritaire et définitif. Ce n'est pas un hasard si l'un de ses motifs préférés est le tremblement de terre. L'épiderme du monde se plisse comme le front d'un être plongé dans ses pensées. J'aimerais vous parler ce soir d'une partie de son œuvre capitale, de la genèse du collage, parce qu'aucune définition ne permettrait de saisir mieux l'œuvre complexe de Max Ernst que ne le fait le collage. Nous pouvons dire que presque rien de l'œuvre n'échappe à une définition du collage, pas même les tableaux, dessins, frottages, sculptures, les poèmes et textes. La définition technique ne suffit pas pour placer la manière de travailler de Max Ernst sous le signe du collage. Il a lui-même merveilleusement résumé en quoi il en transgressait les limites. Si ce sont les plumes qui font le plumage, ce n'est pas la colle qui fait le collage, il a dit. Au début, nous trouvons le travail, s'il vous plaît, le travail avec des clichés typographiques. La première projection. Max Ernst va utiliser ce procédé en 1919, jouant avec des éléments fixes pour une série de travaux. Il le compose à l'aide de clichés au trait que l'imprimerie utilisait pour des publications techniques. Ce sont des appareils finement dessinés, des machines avec des cylindres, des ondes, des pelotes, des tambours, des poulies. Ce sont là des éléments dont Max Ernst me dit qu'il le fascinait déjà dans son enfance lorsqu'il le trouva dans le livre des inventions. Travail avec des clichés typographiques, on ne peut ignorer le fait qu'en 1919, à Cologne, Max Ernst jouait avec le double sens du mot « cliché ». La conception de toute communication esthétique à l'époque supposait que l'œuvre d'art était du travail fait main. Ce n'est pas seulement au niveau du contenu, c'est matériellement aussi que Max Ernst détruisit la notion d'œuvre d'art telle qu'elle avait cours à l'époque. Il ne s'agit pas du tout d'œuvres aléatoires, s'il vous plaît. Nous trouvons dans le Max Ernst, avant Max Ernst, une prédisposition qui explique la fascination moquerie dadaïste. Prochain, s'il vous plaît. En comparant les aquarelles de l'année 1917 et les épreuves de clichés typographiques, on découvre une étonnante parenté entre elles. Dans des œuvres comme « Combat de poissons » à gauche, déjà apparaissent les fines lignes, les petits trous qui déterminent entièrement la morphologie des épreuves de clichés typographiques. C'est à cette époque, en 1919, que Max Ernst puise pour la première fois dans l'inventaire du monde reproduit. Il renonce à tout travail direct, il ne peut donc utiliser que le matériau qu'il trouve à l'imprimerie. On ne peut d'autre part dire simplement que Max Ernst se contente d'utiliser ce qu'il trouve, il aurait pu utiliser un autre matériau concret tel qu'on en trouve dans une imprimerie. Au début, il évita visiblement d'avoir recours à tous ceux qui pouvaient être figuratifs ou narratifs. Max Ernst vit alors qu'il pouvait obtenir un résultat visé autrefois au moyen du dessin ou de la peinture par un processus d'élaboration radicalement abrégé. On peut appliquer à ce premier travail de Max Ernst une remarque d'ordre général. Il marque l'intention de développer la conception d'un style. L'une des conditions essentielles pour aboutir semble être le travail par série. S'il vous plaît, un examen plus précis des épreuves de clichés, le prochain. Typographique permet des conclusions intéressantes. L'homogénéité des épreuves de clichés typographiques saute aux yeux. Il y a deux explications à ce fait. D'une part, l'utilisation formelle d'un matériau initial et d'autre part, son utilisation pour la composition. Un examen et des comparaisons plus poussées nous apportent des explications. En observant une série d'épreuves typographiques, on peut constater que chacune a moins un élément en commun avec l'autre. Max Ernst n'a donc pas rassemblé ces épreuves indépendamment les unes des autres en prenant chaque fois de nouveaux clichés. Il ne se contente pas de jouer ici avec la similitude du matériau initial. Il reprend plusieurs fois certains détails. C'est avant les travaux de collage proprement dit et sans doute après les épreuves de clichés typographiques que commença le travail de dessin et de peinture sur une image existante. Je le définis par la notion peinture retouchée. Une image initiale est utilisée comme surface de projection des contradictions personnelles les résultats d'une correction, d'une contradiction. Une composition, s'il vous plaît, le prochain, une composition qui, pour une raison quelconque, a suscité l'intérêt de Max Ernst et d'exploiter en tant qu'ensemble. Nous pouvons prendre comme le modèle du genre l'œuvre à gauche, paysage d'hiver. La comparaison avec le matériau initial, un tableau représentant la production d'azote et d'acide nitrique, permet de voir comment procéda Max Ernst. Si l'on place côte à côte ce document et la composition, il est difficile au premier abord de repérer ce qui les lie l'une à l'autre. Le tableau de démonstration se divise en deux parties. Le processus de fabrication et le produit final sont réunis en une composition. La première chose qu'il fit, la prochaine, il renversa la composition, la rendant ainsi difficile à lire et la privant de toute fonction. Les deux formes plus libres, au milieu dans la partie supérieure, lui donnèrent l'idée de transformer cette partie en un paysage en y introduisant une coupure horizontale. La racine qui s'amincit vers le bas est devenue un arbre dénudé qui se rétrécit vers le haut. Il ajoute des branches dessinées. Les deux représentations microscopiques sont reliées pour former une plante ressemblant à un palmier. Puis, il recouvre toutes les inscriptions à la détrempe. Le résultat est un paysage inédit, extraordinaire. Ici, le prochain, encore 3-4 exemples de cette transformation extraordinaire grâce à ce procédé inventé par Max Ernst en 1919. Le prochain. Et le prochain. Pour finir, Max Ernst prend un tableau du 19e siècle, un tableau de salon, une copie, et il fait de ça un de ses chefs-d'œuvre des 10 dernières années de sa vie, le Jardin de la France. Le collage offre à Max Ernst une possibilité de remplacer ses propres travaux par d'autres travaux et de s'exprimer à travers ceux-ci. Lorsqu'on compare paysages divers que nous avons vus avec des travaux antérieurs, on peut voir que le choix du tableau de démonstration azote et acide nitrique se fit avec une intention formelle qu'il s'agissait d'un acte délibéré. D'autres exemples qui jouent avec des formes analogues, bien que réalisées suivant de toute autre technique, viennent encore consolider cette hypothèse. Le prochain. Citons par exemple le merveilleux collage Katharina Ondulata. Le point de départ est constitué par un papier peint, découpé et recollé, dont le motif de base géométrique apparaît en bas dans le carré irrégulier. La figure rigide qui domine la composition n'est nullement découpée dans les parties du papier peint et collée sur le reste. Le collage est donc simulé. Il est facile de vérifier que chacune des formes géométriques qui apparaissent dans le tableau reste rigoureusement ancrée dans le motif continu du papier peint. Max Ernst a donc élaboré la forme principale en l'isolant du continuum décoratif fourni par un banal papier peint. Il recouvrit certaines parties de gouache. La forme naît grâce au travail éliminatoire de la peinture, plutôt comparable à la technique d'un sculpteur qu'à celle d'un peintre. L'homogénéité de ces images, leur spécificité stylistique sont dues d'une part à l'utilisation répétée de formes cubiques, cylindriques ou régulières, d'autre part aux retouches irrégulières et floconneuses de gouache ou aux ajouts de dessins qui s'adaptent à la géométrie des formes ou qui ont sans cesse recours à des motifs complémentaires voisins. Un des collages de cette période, c'est le chapeau qui fait l'homme. C'est peut-être le meilleur exemple de cet équilibre qui s'établit entre les formes adoptées dans un matériau existant et le dessin de l'artiste, ainsi que la disparition de l'élément psychologique en faveur de la dimension mécanique et grotesque. Max Ernst en vient ici au collage proprement dit et à la retouche au moyen de la peinture. La figure de gauche fut composée à l'aide de plusieurs formes de chapeaux. Il arrive que ceux-ci soient retournés ou étroitement empilés. Les chapeaux restants ne furent pas collés dans la composition, mais isolés par d'autres que l'artiste recouvrit. De peinture blanche, il recouvrit aussi les inscriptions. On peut dire également, à propos de « C'est le chapeau qui fait l'homme », ce que je puis constater pour les épreuves sur clichés typographiques, il ne s'agit pas d'une exécution fortuite, simple travail occasionnel, elle est non seulement en corrélation avec des compositions semblables de la même époque, son aspect de marionnette, sa rigidité renvoie à des œuvres antérieures qui caricaturaient déjà le plaisir bourgeois de la sortie, la promenade du dimanche en famille. Le prochain. Tout comme dans la figure centrale du collage, on découvre dans le tableau de Max Ernst, chapeau à la main, chapeau sur la tête, de l'année 1913, un homme qui illustre ce constant changement de lieu imposé à un objet comme une mécanique qui ne peut susciter que le rire. L'utilisation d'éléments en double, tels que nous l'avions trouvé dans les épreuves de clichés typographiques, semble cependant avoir été abandonné. La raison en est que Max Ernst ne put en général disposer que d'un seul document initial dans le domaine du collage collé. Il réussit à compenser ce manque en utilisant des formes semblables. L'un des exemples le plus fascinant de cette première période du collage se trouve dans le collage un peu malade, le cheval. Le prochain, s'il vous plaît. C'est un cheval d'apocalypse fantastique que l'on reconnaît aisément comme tel et qui reste pourtant étrangement mystérieux. La forme qui représente l'avant-main est visiblement identique à celle qui représente l'arrière-main. On se met à faire des comparaisons, on se laisse prendre à un fascinant jeu de devinettes. Ce n'est néanmoins pas la même composition. La forme sombre qui vient s'y insérer dérange. D'autres détails ne concordent pas non plus. Il est impossible qu'il soit peint. Un examen plus minutieux de la tête permet de comprendre. La forme qui signifie la tête fut collée sur la forme désignant l'arrière-main. Un autre détail, utilisé deux fois, produit par renversement, en effet d'étrangeté, la fleur blonde dont parle le titre de ce collage n'est rien d'autre que le pied de devant qui a effectué une rotation de 180 degrés. Comme cette forme n'existait qu'en deux exemplaires, la patte derrière fut remplacée par une autre forme. Une forme peut subsumer plusieurs contenus et un contenu peut être représenté par d'autres formes. Il ne faut pas oublier cela si l'on veut comprendre vraiment le constant et fructueux changement de signification, l'ouverture du monde collage de Max Ernst. Si deux éléments non coïncidents se rencontrent, chacun d'entre eux tente en général d'attirer l'autre comme une de ses possibilités de complémentarité formelle ou thématique. André Breton a décelé très tôt ces échanges qui se réalisent dans le collage de Max Ernst, dans sa préface à la première exposition de Max Ernst à Paris en 1921, Breton écrivit « Qui sait si nous ne nous préparons pas de cette manière à échapper un jour au principe de l'identité ?» La diversité des matériaux utilisés augmente. Le matériau initial qui servit au premier collage est remplacé par des formes plus simples que les spectateurs peut le plus souvent reconnaître sans difficulté. Dans la seconde moitié de l'année 1920, la part de matériaux initiaux susceptibles d'être repérés dans les collages devient plus importante. Lorsque Max Ernst utilise des structures composées de petites parties que l'on ne peut reconnaître, il les intègre souvent à une forme ou à une composition compréhensible qui domine l'ensemble. La part de la peinture ou du dessin dont les retouches dissimulent les formes réelles est en recul, Max Ernst a souvent recours à un autre procédé pour rendre son matériau méconnaissable. Il fait un collage et en fait faire des tirages photographiques. Il arrive qu'il se contente de signer ses photos. Le prochain. Voici comment un collage est simulé, étant donné que le nouveau travail de collage, où le dessin n'apporte ici qu'une modification légère, le spectateur croit pouvoir interpréter le reste, la photographie réalisée d'après le collage, comme la photographie de quelque chose de réel et il s'empêtre dans le mystère. Les éléments repérables détournent l'attention du collage primitif. Ce travail avec la photographie s'explique aussi autrement. Seule la reproduction apporte l'homogénéité qui fait d'un collage réalisé à partir de différents éléments une forme matérielle continue. Dans les cas où l'élément collé commence à jouer un rôle important, la photographie permet de réaliser un ensemble où les raccords sont invisibles et de nier donc ainsi le collage. Il faut être pleinement conscient de ce procédé si l'on veut comprendre la relation de Max Ernst avec les photocollages du groupe Dada de Berlin. La photographie telle qu'il l'utilise en 1920 lui permet d'échapper à l'aspect matériel du collage à tout ce qui permet de le repérer. Pour Max Ernst, l'harmonisation, s'il vous plaît, le prochain, l'harmonisation des éléments qui permet de réaliser un tableau parfait est la condition primordiale. Chaque fois que durant ces années, il laisse sortir des collages de son atelier, il le rehausse en utilisant l'aquarelle de telle sorte que le contraste des différents tons du papier soit camouflé. Nous pourrions dire que le collage parfait devient synonyme du crime parfait. Chez Max Ernst, c'est donc de l'intégration qu'il s'agit, d'une discipline imposée aux matériaux. Si nous les observons du point de vue de la composition, ce collage nous paraît plausible, aussi allogique que soit leur contenu. La force de leur irréalité tient à ce qu'ils parviennent à exercer une séduction rationnelle. Faisons une simple comparaison, le prochain, avec le collage des dadaïstes berlinois, dont je vous montre ici un exemple de Hanauch et de Haussmann. Une figure et la tête qui doit s'y ajouter, que les proportions correspondent ou non, Max Ernst, lui, respecte toujours les proportions. Voici un exemple convaincant de ce procédé. Dans le collage, intitulée Augustine Thomas et Otto Flack, qu'élabora Louise Strauss, l'épouse de Max Ernst, on voit suspendue en haut à droite des pièces de bétail mort. Dans cette œuvre, élaborée sur le modèle des photomontages de Berlin, tête bien trop grosse pour un corps trop petit, ce bétail abattu donne une impression d'irréalité. Max Ernst me dit lui-même qu'il avait ajouté au collage les animaux suspendus à droite en haut. Mais voilà que dans un collage qu'il a réalisé lui-même à la même époque, le collage La chanson de la chair réapparaît le même bétail. Le prochain. Ce collage démontre la précision formelle stupéfiante avec laquelle Max Ernst insère les éléments de ses collages. La composition est dominée par quelques lignes, la boule, balle de tennis, la pointe de l'index, la pointe supérieure de la forme qui ressemble à un éventail constitue une ligne qui s'étire parallèlement à l'animal en haut. L'animal de gauche a la même longueur que les deux lévriers pris ensemble. De telles concordances sont fréquentes. La mathématique interne de la composition est même indiquée par un espace scénique dessiné, rigoureusement circonscrit, comme on le trouve souvent dans le premier collage. Les corrélations au sein de l'œuvre s'affinent de plus en plus. La part du hasard est limitée. Un matériau doit toujours offrir la possibilité de réaliser un collage, non seulement thématiquement, mais aussi sur le plan de la composition. Le prochain. Le rossignol chinois pourra nous servir d'exemple ici. La forme primitive, une bombe, devient un buste femme. L'éventail est introduit de telle manière que le segment circulaire à sa base prolonge l'arrondi de la bombe. Une telle association de formes qui se présente ici comme un complément parfaitement naturel au point de ressembler à une forme complète ne pouvait être obtenue avec n'importe quel autre éventail. S'il avait été plus large ou moins ouvert, il n'aurait pu servir de complément à la forme primitive. Il convient d'établir des distinctions parmi les photocollages eux-mêmes. Deux groupes s'opposent. Le premier semble continuer ce qui a débuté dans les compositions avec les clichés typographiques et les peintures retouchées évoquées jusqu'à présent, c'est-à-dire que ce qui domine ici, c'est l'utilisation de formes structurellement compliquées et qu'on ne découvre pas à première vue. Le prochain. Parmi ceux-ci, on trouve une œuvre comme Les Flamands. Nous découvrons l'ange Saturne avec son anneau, Les Flamands. C'est peu à peu seulement que notre regard pénètre dans les structures. Nous reconnaissons la vue aérienne d'une installation portuaire. À cela viennent s'ajouter une rose gothique, une coupe à travers un cerveau humain. Ce qui est déterminant dans le style des photocollages de Max Ernst, c'est que les formes clairement repérables, les flamands, l'ange, restent intactes dans leur totalité. Elles sont intégrées sans subir de modifications. Le travail de collage, en revanche, qui fond les formes, les brouilles s'en tient à un matériau difficilement lisible en tant que tel. Cela est lié sans aucun doute à l'intégration parfaite des éléments qui est le but recherché par Max Ernst. Les formes ne sont entamées que lorsque leur structure ne peut plus se reconnaître dans la composition. On peut citer pour exemple le prochain, le massacre des innocents. Si on le compare aux flamands, le matériau photographique passe ici encore bien plus à l'arrière-plan. Les trois figures qui courent dans des directions différentes sont dessinées. Le spectateur pourrait croire que le reste de la représentation est également dessiné ou composé à partir de modèles abstraits. Au départ, l'œuvre garde son secret. Si on la tourne, on reconnaît dans les lignes qui se précipitent vers les profondeurs, vers le lointain des façades de palais italiens, vénitiens. Un autre exemple, le prochain. Gay, réveil de Geyser, utilise les retouches à la peinture. Ce que nous croyons voir, la partie inférieure d'un corps féminin étrangement disloqué. On se demande où Max Ernst a bien pu trouver une aussi étrange représentation de nu. La réponse n'est pas simple, mais on peut la trouver dans le collage même. Il nous faut, une fois de plus, renverser le tableau. Ce qui paraissait auparavant encore quelque peu plausible se révèle maintenant impossible du point de vue anatomique. Tout est déformé, on cherche à s'y retrouver. Voici la réponse. Max Ernst prit une figure debout de profil et couverte d'un trapé à partir des hanches. Il couvrait l'épaule, la tête, une partie de la poitrine avec de la peinture et utilisa la main pour en faire un pied. En renversant finalement toute la composition, il rendit son origine totalement méconnaissable. Nous pouvons parler de la formation d'un style au sein même de l'élaboration de collages. Il fait aucun doute que Max Ernst consulte un abondant matériau pictural et que ces collages naissent dans un processus dialectique où l'intérêt suscité par les motifs est aussitôt complété par une réflexion formelle qui en repère les utilisations possibles ou les rejette. Le peintre et dessinateur filtrent tous ceux qui existent déjà, le monde banal existant. L'initiative du matériau existe, mais elle reçoit ses limites de la part du sujet en quête de constantes compositionnelles repérables. Souvent, les motifs sont permutés de telle sorte que leur signification primitive est annulée. Cette utilisation allogique contribue à subordonner le fragment à une nouvelle totalité picturale. Il ne se présente pas comme le fragment isolé et repérable de quelque chose de plus complet. Le prochain. Dans la puberté proche, à gauche, un nu féminin plane dans le ciel. Cette composition extraordinaire satisfait pleinement notre sens de la logique. Nous interprétons la figure, si nous voulons, comme l'allégorie d'une constellation astronomique. On pourrait penser à la naissance de la Voie lactée du Tintoret à droite. On pourrait voir dans les bouts de sein le nombril et trois autres points, une constellation d'étoiles. Le visage est retouché à la peinture, il tombe sur la terre sous l'aspect d'une pierre. Si nous soumettons cette œuvre extraordinaire à une rotation de 90 degrés, le prochain, la figure qui plane devient un fragment, une figure allongée sur un canapé, une banale illustration de l'époque que Max Ernst a sortie et qu'il a transformée en une merveille. Le prochain. Au-dessus des nuages marche la minuit, de même que la puberté proche font partie des tableaux merveilleux qui se détachent déjà de Dada. La situation toute chargée du mystère du rêve touche plus fortement que l'ironie dans un tableau. Au-dessus les nuages marche la minuit. Une pelote de coton et un ornement au crochet deviennent une figure mythologique où nous reconnaissons une Pâque. La conversion décisive en faveur d'une œuvre qui sera de plus en plus consacrée à la combinatoire extraordinaire d'éléments existants suscite le recours à des illustrations de gravures sur bois. L'utilisation de matériaux photographiques cesse au début de 1922. Les illustrations ainsi que les planches d'un catalogue sur lequel Max Ernst tomba par un jour pluvieux dans une ville au bord du Rhin lui servirent de matériaux. C'étaient des illustrations schématiques et didactiques. Comparées à la photographie, la gravure sur bois paraissait déjà démodée. Il ne correspondait plus au standard le plus moderne de l'époque. Dans son essai, au-delà de la peinture, Max Ernst parle de la fascination qu'exerça sur lui un catalogue présentant des objets anthropologiques, microscopiques, minéralogiques, etc. C'est l'effet d'une nostalgie que se trouve décrit là, une distance à l'égard de l'époque dans laquelle vit l'artiste, une conscience de collectionneur d'antiquités qui évalue la tension entre le présent de l'art et celui qui est dépassé, trivial. L'esthétique de Max Ernst, une esthétique de la distance, si fortement liée à la possibilité du collage, se compose, selon ses paroles mêmes, de la rencontre fortuite de deux réalités distantes sur un plan non convenant. Cette distance, cette esthétique de la distance, de la fascination qu'exerce ce qui n'a plus cours et dont parle Rimbaud, nous pouvons donc affirmer ici que ce recours à un matériau de reproduction du XIXe siècle n'est pas seulement porté par une considération technique, mais aussi par un jugement personnel sur le XIXe siècle méconnu et qui se veut provocateur. Je pense que c'est la raison pour laquelle Max Ernst a renoncé très rapidement à la photographie comme moyen d'expression du collage. Outre les considérations techniques, il est probable que l'absence d'intérêt pour le matériau pictural moderne joua également un rôle. Ce dernier n'exprime pas la distance, le caractère insolite des gravures sur bois. Il utilisait un matériau qui n'éveillait aucune résonance chez le spectateur de l'époque. C'est sans doute la raison pour laquelle il se limita le plus souvent à un matériau de reproduction auquel on n'avait jamais reconnu la moindre valeur esthétique. En se limitant à un matériau que l'on pouvait reproduire au cliché au trait, Max Ernst limitait ses emprunts à l'inventaire de choses reproduites et se trouvait amené à chercher des moyens d'expression dans la sphère déterminée par les techniques de reproduction. Cette quête ne pouvait que l'entraîner hors de son époque, vers le XIXe siècle. Il s'agit ici d'un choix qui restait lié à la fonction des œuvres en cours d'élaboration, à la possibilité de les reproduire facilement. Or, on peut constater que même dans ce roman collage, Max Ernst resta fidèle à cette technique de reproduction. Tout semble donc prouver que l'utilisation de gravures sur bois doit être considérée comme un choix stylistique. Les éléments ainsi isolés doivent donc pouvoir, de leur côté, se réintégrer dans une composition qui existe déjà ou se lier formellement à d'autres éléments isolés. Au cours de différentes opérations, le prochain, des différentes opérations de collage, les réseaux variés se fondent très bien entre eux, très souvent un léger raidissement, comme un effet magnétique, des lignes le long des raccords permet seul de repérer où Max Ernst est intervenu avec les ciseaux, mais souvent le spectateur, même armé d'une loupe, est incapable de déterminer à partir des collages reproduits dans les livres le degré d'élaboration auquel les a soumis l'artiste. L'intégration technique se fait avec une telle logique que la thématique primitive, le collage même, tend à disparaître. On pourrait parler d'un collage intégral dans la mesure où l'utilisation d'éléments décomptables, techniquement disparates, tend à s'effacer derrière la nouvelle structure constituée par l'ensemble. Nous trouvons déjà dans le premier livre Répétition les deux types fondamentaux de collage de gravure sur bois. On pourrait parler de deux modes, premièrement du mode synthétique et deuxièmement le mode analytique. On pourrait définir comme synthétique les collages où Max Ernst compose un tableau à partir de différents fragments picturaux. Le collage analytique part en revanche d'un seul contexte dominant le tout et constituant un cadre. Il devient, pour ainsi dire, le lieu où s'effectue la rencontre et l'interpénétration d'éléments disparates. Le plus souvent, c'est d'un tableau à caractère scénique ou un tableau où l'atmosphère est prédominante, un paysage par exemple, qui se trouve modifié. Le retouche à la peinture en présente une étape préliminaire. Dans ce cas, le format du collage est déterminé par le tableau initial. Ce second type de collage sera déterminant pour le roman collage de la fin des années 20. Ce qui distingue tout d'abord les collages synthétiques des collages analytiques, c'est le vide de la feuille blanche qui isole chaque élément. L'espace qui les entoure reste le plus souvent blanc. Commençons par quelques indications concernant le matériau utilisé. Il fait apparaître dans le collage sa stupéfiante différence. Dans le prochain, dans le collage à gauche, réveil officiel du serin, on trouve pour la première fois un des motifs principaux, l'oiseau dans la cage. Max Ernst emprunta cette illustration à un tour de magie. La pointe de la nappe se transforme en une tour sur laquelle tombe la foudre. Le prochain, pour plaisir oublié, il utilise une étude sur le droitier et gaucher de la vue. Le prochain, et pour la paix à la campagne, l'illustration d'une singulière expérience d'acoustique. Et, s'il vous plaît, pour rencontre de deux sourires, un tour de magie qui était fréquent dans les publications de l'époque. Le prochain. Il est possible de démontrer qu'un certain nombre de dessins des années 1922 représentent un transfert du procédé du collage dans le dessin. Nous avons affaire, dans un sens très strict, à des collages décalqués. Ils furent exécutés sur un papier très fin qui permettait à Max Ernst de décalquer certains éléments, de les combiner et de les compléter au dessin. Et dans ce cas, Max Ernst simplifiait toujours le dessin intérieur. C'est ainsi le prochain, que dans le dessin intitulé « Baudelaire rentre tard », il laisse de côté toutes les petites hachures par lesquelles le graveur sur bois avait représenté l'invention d'un éclairage d'escalier et qui permettait à l'utilisateur de tirer le cordon de la lampe tout en montant l'escalier. À ce moment, Max Ernst retourne à la peinture. On ressent nettement dans les premiers tableaux Le schématisme propre aux matériaux pour collage, un contour rigoureux, un tracé net de contour, voilà qui appelle une couleur simplifiée ou magique dans les tableaux des années 22-23. Le coloris se présente comme un équivalent du dessin. Il en résulte des tableaux de précision en contour très fortement marqué. Le prochain. Et aussi dans ce domaine, vous voyez dans U du pouce Rex, il est impossible de ne pas voir l'association d'un dessin et d'un coloris qui sont nouvelles. La parenté entre U du pouce Rex et le collage de répétition est sensible. L'influence du collage tient sans doute à ce que l'artiste introduit dans la peinture des détails non culturels. Certains détails ne sont pas empruntés à l'art, mais essentiellement au domaine de l'illustration, comme pour l'éléphant célébès. Le prochain, s'il vous plaît. La parenté entre les doigts du collage, le prochain, l'invention et le tableau Oedipus Rex a été relevé maintes fois. La main démontre comment on creuse de trous dans les pattes des poules à l'aide d'un petit appareil. Le schéma de gauche illustre différentes variétés de cette opération. Il s'agit d'une illustration tirée d'un catalogue d'instruments et d'outils pour élevage des poules. Cela permettait de marquer, de dater les poussins qui venaient de sortir de l'œuf. Dans le collage, les doigts prennent une dimension menaçante, disproportionnée. Ils sont confrontés à des représentations d'une autre échelle, fenêtre ou mur de briques. L'illustration de départ utilisée par Max Ernst, le prochain, est aussi banale dans son énoncé que l'est le matériau initial du collage. La transformation réalisée par la composition est tout aussi stupéfiante et extraordinaire. Max Ernst a recours à une illustration de physique sans appareil concernant une expérience sur l'élasticité. La relation dans laquelle sont placés les doigts et la noix par rapport à la fenêtre et aux oiseaux produit là encore une tension irrationnelle. L'exemple prouve une fois de plus que la sélection effectuée par Max Ernst dans le matériau de collage obéit à une structuration de la mémoire. L'illustration qu'il a choisie ici a pu l'intéresser parce qu'elle lui semblait posséder à l'époque une qualité importante pour lui. Il découvre un synonyme de la main dans le collage, l'invention, et en même temps une représentation qui permet de développer iconographiquement le motif obsédant, aveuglement, castration. La coupure, la blessure, la chirurgie picturale viennent remplacer la peinture libre. C'est le portrait d'un démiurge auquel le scepticisme a lié les mains. Un regard sur le texte accompagnant l'illustration primitive permet de découvrir l'extrême complexité dans l'élaboration du thème, de voir combien une allusion suffisait pour que l'artiste se fixe son thème. Ce tour de prestidigitation a pour fin de mystifier à droite le spectateur qui croit que le doigt et l'extrémité de la noix restent accrochés si l'on appuie fortement le doigt sur cette extrémité. Mais le majeur, l'annulaire et le pouce appuient tandis que l'index frotte si fort l'extrémité de la noix que celle-ci s'ouvre légèrement en haut. La peau de l'index est retenue dans la fente dès que les autres doigts relâchent leur pression. L'idée de blessure ou de pénétration qui domine dans ce tableau se trouvait déjà dans l'illustration de l'expérience. Max Ernst construit son tableau à partir de ces différents éléments et à partir de son imagination. À la suite d'Oedipus Rex, le prochain, j'aimerais considérer encore d'un peu plus près un autre tableau, La femme chancelante. Il a été peint 2 ans plus tard, en 1923, à Paris. Comment interpréter une telle œuvre extraordinaire, frappante? Il convient de faire quelques observations qui relient l'énoncé thématique et stylistique du tableau à l'ensemble de l'œuvre de Max Ernst. Remarquons d'abord 2 motifs qui frappent, celui de la cécité et celui de l'emprisonnement. Nous retrouvons sans cesse, à partir de ce collage à droite, la préparation de la colle d'os, la présence de machines et d'installations enveloppant le corps. C'est la raison pour laquelle on peut affirmer que la femme chancelante s'inscrit fort bien dans l'œuvre. Il fallait donc qu'une représentation qui n'était nullement étrangère à l'œuvre exige comme première thèse la sélection de la seconde. Et à propos de la femme chancelante, on peut sans doute supposer que Max Ernst réagit ici, comme en beaucoup d'autres cas, à des modèles iconographiques existants. La femme chancelante est sans aucun doute une allusion à la fortuna, à la fortune, ou plus précisément à la bonne occasion. Une variation sur ce thème a fourni l'idée fondamentale du tableau. C'est d'ici qu'apparaît toute la complexité de la notion de collage chez Max Ernst. Le collage se révèle d'être le refus d'associer simplement des éléments non coïncidents. Sont réunies, le prochain, 2 images initiales que rien ne relie entre elles. Il n'est pas possible de reconnaître laquelle des 2 images tout à fait banales et perdues dans un flot d'imagerie populaire attendait d'être complétée, laquelle exigeait l'apport de la seconde. En soi, l'appareil à droite pour lancer l'huile à la mer contient déjà de nombreuses allusions formelles qui s'accordent à l'œuvre de Max Ernst. Je ne pense pourtant pas que l'intérêt pour ce curieux appareil en tant que tel pouvait être à l'origine de son utilisation. L'appareil, l'ancrage incertain dans l'eau, ne convient-il pas parfaitement à une allégorie de la fortune dont une des attributs, outre la corne d'abondance et la boule, est également la roue d'un gouvernail. La relation devient encore plus évidente lorsqu'on établit une comparaison avec la fortuna, la prochaine, de Bellini, qui se tient en équilibre sur 2 boules. 2 motifs initiaux que rien ne relie, le prochain. Ils ne furent nullement sélectionnés indépendamment l'un de l'autre. J'ai l'impression que l'appareil pour lancer l'huile à la mer inspira à Max Ernst l'idée de le prendre comme forme de base pour le compléter. En plus de jets d'huile qui ressemblaient à un squelette métallique, les 2 formes rappelant des semelles de chaussures durent également susciter l'intérêt de Max Ernst. Il entrevit la possibilité de compléter cette mécanique d'aspect anthropomorphe, de lui adjoindre la figure de la fortuna. Cette figure féminine, insérée par l'artiste, est arrachée à son numéro d'équilibre et retournée de 180 degrés. L'une des 2 chaussures qui s'accrochent au plafond comme des ventouses est fondue avec l'une des formes semelles de l'appareil dont la fonction est d'apaiser la mer. C'est à ce retournement que la fortune doit sa chevelure hérissée qui caractérise entre autres ce tableau extraordinaire de Max Ernst. Le prochain. Ainsi donc, les 2 éléments initiaux utilisé pour la femme chancelante perd totalement leur signification primitive une fois que transformés, ils sont intégrés dans le tableau. Le retournement de l'acrobate est particulièrement remarquable, tout ce que justifiait sa présence dans l'illustration de la revue, sa performance est entièrement transformée. La colonne à côté de la loge a peut-être suggéré de placer sa figure dans un contexte aussi décoratif. L'intégration dans l'ensemble de cette fortune chancelante aux yeux bandés peut être comparée à l'œuvre de Bellini que nous avons vue tout à l'heure. Les colonnes correspondent aux arbres. Nous trouvons de plus un exemple du génie formel de Max Ernst. Il a inséré la femme dans un appareil en position diagonale au lieu de partir de la verticale. Nous pouvons conclure le recours à un inventaire existant mais indifférent à toute idée de représentation picturale, culturelle, constitue l'apport personnel extraordinaire du génie de Max Ernst. Le fait qu'il emploie des éléments existants ne le place cependant pas dans le silage du ready-made et de sa présentation du monde. Il n'y a pas d'exemple de collage où le matériau trouvé par l'artiste soit présenté en tant que tel, que ce soit pour le valoriser ou pour le plaisir de mettre en scène des objets trouvés étranges. Le spectateur a le pressentiment d'une réalité, d'un déjà-vu, d'un passé reculé qui s'accumule en lui et qu'aucune définition ne parvient à analyser. Continuellement, les collages se dérobent à toute approche, redissimulant sans cesse la logique interne de leur origine. Nos définitions, nos interprétations ne sont que des approximations et c'est justement ce qui nous fascine au plus haut point, un matériau dont on comprend au départ tous les détails et qui fait référence à ce qui existe réellement est, en quelques manipulations, tellement démonté et remonté que la totalité nouvelle qu'il constitue en vient à nier son être initial. Celui qui contemple les collages comme l'ensemble de l'œuvre de Max Ernst est amené à constater d'une part l'homogénéité du style et de l'autre la liberté du sens. Je ne crois guère que l'iconographie de Max Ernst puisse être ramenée pour les détails, pour l'ensemble, à quelques formules ou concepts, mais je suis convaincu que dans la mesure où ces collages associent des éléments réels repérables à une quantité variable d'éléments que l'on ne peut interpréter, on peut déchiffrer le monde pictural de Max Ernst. L'utilisation d'éléments réels permet dès le début à Max Ernst, grâce à ce qu'il appelle lui-même la merveilleuse aptitude à rapprocher des réalités sans lien entre elles et à faire surgir une étincelle de ce rapprochement, de réaliser un tableau au-delà du tableau qui va relativiser et détruire les images réelles prises au point de départ. L'actif et le passif, un découpage sceptique de la réalité, l'élaboration d'univers visionnaires jamais vus, tout cela ne cesse de se produire. Bien des découvertes sont le fruit de sa perception poétique de nature qui les fascine. Le vertige de celui qui ne se perd pas dans la banalité du quotidien, le vertige qu'inspire l'infiniment grand et l'infiniment petit, le facteur d'indétermination des méthodes modernes de l'observation physique sollicite Max Ernst toujours. Il recherche les réponses à des questions qu'on ne peut formuler qu'à l'aide de catégories philosophiques, non à l'aide de catégories esthétiques. L'inquiétude qu'exprime son œuvre, les contradictions dans toute sa manière d'être, révèlent bien une angoisse profonde, une soif de connaissances métaphysiques. À l'absence de foi, à l'esprit objectif de son temps, il n'oppose aucune foi nouvelle, mais l'inquiétude que la pensée continue à introduire dans nos existences mêmes. Ses œuvres planent entre le réel et le possible. Dada, la déformation de la silhouette humaine, la métamorphose, le surréalisme, la tristesse, la décalcomanie et le cliché d'imprimerie, l'hallucination, les paysages cosmiques qui tendent vers l'infini, les forêts luxurieuses, luxuriantes, empreintes de mélancolie. Le déroulement de cette œuvre extraordinaire, les tentatives, le reniement, les recommencements nous éblouissent et nous impressionnent éternellement.